I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de ciné en particulier avec un invité. Avant de démarrer, souvenez-vous, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à la soutenir, même modestement, via le site Tipeee. C'est libre et sans engagement et ça se passe à l'adresse tipeee.com/année-lumière. Ce mois-ci, mon invité est journaliste, auteur et réalisateur des documentaires sur le cinéma Alien Galaxy, Hollywood 1982 ou encore Mad Max Univers Brûlant. Il est aussi et surtout le fondateur du magazine Rokirama consacré au cinéma et à la pop culture. Cette personne touche à tout et passionnante, c'est Johan Chiaramonte. Salut Johan.
Salut Thibaut.
Comment ça va?
Ça va bien, merci de l'invitation.
Eh ben, je suis magnifiquement très très heureux de t'avoir dans l'émission, c'est un grand grand plaisir. Alors ce mois-ci, on vous parle d'une année massive où tout dehors est chaotique, bouleversé, en crise, en questionnement. Le monde est alors un lieu de débat, de conflits, de peurs et de doutes, et le cinéma va en être comme souvent un témoin privilégié. Sur l'écran arrivent de nouveaux démons, de nouveaux héros, de nouveaux modèles qui nous présentent une réalité moins reluisante peut-être, mais plus proche de nous et de nos états d'âme aussi. Une année de losers magnifiques, de huitième passager et d'une ville qui ne dort jamais. Bref, aujourd'hui, on parle de l'année 1979. Goodbye Stranger de Supertramp, on écoutait ça en 1979. Alors pourquoi avoir choisi cette année-là, cette période-là, Johan?
Tu m'as proposé de choisir entre deux décennies, les années 80 et les années 70, pour déjouer un peu les pronostics. Ben je me suis dit, je vais faire les années 70, de toute façon, Rokirama, c'est les années 80, ce qui n'est pas vrai. Après, j'ai hésité entre beaucoup d'années, mais 79, c'était évidemment l'occasion de parler d'Alien,
bien sûr.
De Manhattan, et puis de 2-3 films français aussi, que j'aime beaucoup, et en particulier d'un acteur.
C'est un cinéma qui est proche de toi, tu dirais, le cinéma de 79?
Oui, pour plusieurs raisons. On va y revenir avec les films qu'on va évoquer, mais je me retrouve pas mal dans les films qu'on va évoquer, ne serait-ce que artistiquement. Ouais. C'est des films qui m'ont beaucoup, en tout cas pour les deux films américains qu'on va évoquer, qui m'ont beaucoup influencé.
Alors 1979, c'est l'année du début de la guerre d'Afghanistan, de la révolution iranienne qui amènera l'ayatollah Khomeini au pouvoir, du deuxième choc pétrolier après celui de 73, ou encore de l'arrivée de Margaret Thatcher à la tête du gouvernement britannique. C'est aussi l'année de la mort de la légende John Wayne et de l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, abattu par les forces de l'ordre à Paris, porte de Clignancourt. Pour contrebalancer ce climat plus que morose, les gens se ruent alors sur la nouvelle création du japonais Sony, le Walkman, sur le roman Une histoire sans fin qui vient tout juste de sortir, et sur les derniers épisodes des séries Battlestar Galactica et Starsky et Hutch. Mais 79, c'est aussi et surtout du cinéma, et cette année-là, les Américains faisaient un triomphe au film Kramer contre Kramer, numéro 1 du box-office. Le festival de Cannes, présidé par François Sagan, remettait une palme d'or ex aequo au Tambour de Volker Schlöndorff et à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Le public découvrait Mad Max de Frank Miller, Stalker d'Andrei Tarkovsky, La vie de Brian des Monty Python, Moonraker. Les Français étaient eux aussi très gâtés. Ils avaient le droit à Buffet froid de Bertrand Blier, au Bronzé Fonduski et à Flic ou Voyou avec Jean-Paul Belmondo. Mais au cœur de cette année massive, le public du monde entier va s'installer dans les salles obscures pour frémir et frissonner devant un film terrorisant autant par ce qu'il montre à l'écran que par ce qu'il révèle au fond de chacun de nous. Une expérience à la croisée des genres qui nous saisit d'abord par cette tagline énigmatique « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». On est parti pour le premier thème de l'émission. « cette musique énigmatique, mystérieuse. Elle est composée par Jerry Goldsmith et c'est la musique du film Alien de Ridley Scott avec Sigourney Weaver, Ian Holm, John Hurt, Tom Skerritt. Alors Alien, évidemment, sorti grand film cette année 1979. Et film ô combien célèbre, une référence pour beaucoup. Rapidement, pour raconter, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Alien, ça raconte l'histoire du cargo commercial le Nostromo, le vaisseau Nostromo, qui ramène son équipage, qui est de retour d'un voyage aux confins de la galaxie, et qui ramène son équipage sur Terre, jusqu'au moment où un signal émanant d'une planète inconnue les tire cet équipage de leur sommeil artificiel. Et l'équipage donc va devoir se poser et découvrir sur cette planète inconnue un vaisseau abandonné. Et l'un des leurs se trouve alors agressé par une créature. Et lorsqu'ils reviennent dans le vaisseau, l'équipage découvre que la vérité, finalement, le signal n'était pas un appel à l'aide, mais une mise en garde destinée aux malheureux voyageurs. Et là, l'horreur est un peu en marche, finalement. Alors, Alien de Ridley Scott, c'est 11 millions de dollars de budget pour un box-office américain de 79 millions. C'est le sixième plus gros film de l'année en 79. Plus que, pour vous donner une image, plus que Moonraker de James Bond. Donc, ça vous donne l'idée de l'impact quand même dans les salles d'Alien à ce moment-là. C'est donc un grand succès public qui va s'allier à un succès critique puisque le film va être reconnu, ou en tout cas par certaines institutions, et va notamment remporter l'Oscar des effets visuels qui va être décerné notamment à H.R. Giger, qui est ce plasticien suisse créateur du xénomorphe, ce fameux Alien dont tout le monde parle. Johan, toi tu te souviens de ta première vision d'Alien?
Parfaitement.
Ton premier visionnage?
Parfaitement. Qui ne se souvient pas du premier visionnage d'Alien. Parfaitement, c'était une cassette vidéo louée dans les années 80 par mon père, qu'on a regardé un soir et qui m'a traumatisé pour toujours.
T'avais quel âge, tu te souviens?
Ah non, parce que je me souviens pas de l'année, mais je devais avoir une dizaine d'années, je pense.
Ah ouais, c'est tôt.
C'est très tôt, mais c'est formateur.
Donc t'as un côté traumatique.
Le petit déjeuner n'est plus jamais le même, hein, après Alien, le breakfast.
Tu ne t'étouffes pas de la même façon.
Non, mais d'autant plus à 10 ans, mais même en 79, ouais. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
Et donc c'est réalisé donc par Ridley Scott, pour remettre du contexte, c'est le cinéaste évidemment derrière Blade Runner, derrière Gladiator, La Chute du Faucon Noir, Seul sur Mars récemment, Thelma et Louise, donc cinéaste qu'on ne présente plus. Et en 79, Ridley Scott, il a déjà fait son premier long métrage qui est donc Les Duellistes, qui a eu une résonance critique importante présentée à Cannes et qui est un film sublime. Si vous ne l'avez pas vu, Les Duellistes, c'est incontournable. Et c'est aussi, et surtout, c'est pour ça qu'il est célèbre à l'époque, c'est aussi un énorme réal de pub et de clip qui a une patte vraiment particulière, unique, et qui, tout le monde s'arrache un petit peu à cette époque-là. Et du coup, il est précipité, en tout cas, sur ce film Alien, écrit par Dan O'Bannon, qui est un scénariste, le scénariste de Dark Star de John Carpenter, qui est sorti quelques années auparavant, qui est déjà, on va dire, un espèce de proto-alien, un espèce de film qui annonce...
Une bonne comédie,
un film d'espace un petit peu raté, en tout cas, ou qui ne crée pas la tension qu'il veut créer. D'où Alien sort, véritablement. Là, on a parlé de Dan O'Bannon, on a parlé de Ridley Scott. Qui est le papa d'Alien? Quelles sont les inspirations d'Alien?
Alien, c'est vraiment une créature protéiforme qui va puiser dans énormément de sources, en fait. Que ce soit dans les comics, dans le cinéma des années 50, le cinéma d'horreur des années 50, le cinéma évidemment de science-fiction. Ridley Scott, jusqu'à récemment, avant de voir Alien, n'a pas encore vu Massacre à la tronçonneuse. Et puis on le force à voir le film et il dit OK. C'est ça mon film. C'est une maison hantée dans l'espace. Donc il fait peut-être pour la première fois, en tout cas à ce niveau, et depuis ça a été copié à l'infini, un film d'horreur dans l'espace.
Un space horror, du coup.
Exactement.
Qui est un espèce de sous-genre de...
Ouais, bah, de toute façon, Alien fabrique quasiment à lui tout seul un genre. Il a tellement été copié ensuite qu'il est dupliqué comme tous les grands marqueurs et tous les grands chocs cinématographiques. Et faut pas oublier que 2 ans avant sort Star Wars. Et Star Wars, c'est le vrai déclic pour Ridley Scott. Il se dit, OK, il faut vraiment que j'y aille, il faut vraiment que je fasse mon film de science-fiction. Si on est capable de faire ça, je dois pouvoir y aller. Évidemment, lui, il prend un tout autre chemin que Star Wars. Mais le film, c'est aussi la queue de la comète des années 70, c'est-à-dire que c'est un film qui respire vraiment les années 70, qui a des problématiques des années 70, mais qui aussi commence à rentrer dans les années 80, dans quelque chose d'un peu plus, un peu plus binaire. C'est pas, je trouve pas que c'est pas un film ambigu. C'est-à-dire qu'il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Si ce n'est peut-être la question de H à un moment donné. Oui. Mais c'est vraiment la seule personne qui pose comme ça cette ambiguïté. De l'autre côté, on a le bien, le mal, et c'est la confrontation au sein d'un vaisseau. Et ça, c'est très... c'est bien le retour des années 80, ça, quand même. L'ambiguïté des années 70, on la laisse un peu derrière soi.
Un truc un peu réganien, quoi.
Voilà, c'est... Mais Les Dents de la Mer avaient déjà posé ça, oui. En 75, avec le requin et les baigneurs, les hippies, puisqu'ils se les faisaient.
Et le slasher a peut-être installé ça aussi dans les années 70.
Voilà, ouais. Exactement. Donc, on arrive vraiment à ce... Ce côté, ouais, plus binaire, je crois, de la question.
Et c'est vrai que tu en as parlé, là, on est en 79, on est 2 ans après Star Wars, on a une époque où le cinéma américain, et Hollywood en particulier, a envie de réitérer l'espèce de miracle Star Wars qui a été un carton phénoménal. Et donc, tout le monde se jette. La même année, en 79, on a le film Star Trek qui sort, donc le film adapté de la fameuse série. Y a donc James Bond qui va dans l'espace. Tout le monde a envie d'aller dans l'espace cette année-là. Et Ridley Scott, du coup, sa proposition, c'est ben, cet espace rutilant, ou en tout cas plein de couleurs, plein de, qu'on peut voir dans Star Wars ou qu'on peut voir dans Star Trek, ben moi, je vais proposer autre chose. Je vais proposer quelque chose de plus usé, de plus industriel. Je vais faire de l'espace un endroit angoissant. Et comme tu l'as dit, il va devenir le représentant du space horror. Alors, space horror, c'est un sous-genre qu'il n'a pas inventé, puisqu'on peut citer... Il y a La planète des vampires de Mario Bava. Il y a même Solaris de Tarkovsky qui déjà installe cette idée d'un espace angoissant. Plus tard, tu auras Event Horizon, tu auras Sunshine de Danny Boyle, etc., etc. Mais c'est vrai que quand on pense space horror, forcément, Alien arrive. Et space horror, tu l'as dit, c'est un mélange de space opéra, de genre science-fiction et de genre horreur. Et moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que va révolutionner Alien dans la science-fiction et dans le genre horreur ?
Alien, c'est tellement la conjugaison de plein de talents. Parce que, évidemment, on met Ridley Scott au premier plan. C'est lui, le chef d'orchestre du film. Mais quand on pense à Dan O'Bannon, Chris Foss, Ron Cobb, Giger, évidemment,
forcément,
qui impactera pour toujours ce film et la franchise tout entière. Je crois que c'est vraiment la conjugaison de tous ces talents qui vont révolutionner le space opéra et le film d'horreur. Dans le sens, à mon avis, plus graphique que de l'évolution même du film d'horreur ou du space opéra. C'est vraiment, je crois, visuellement, où on part en 68 avec 2001, de quelque chose de très clean, finalement. Enfin, je veux dire, quand on regarde les intérieurs, il n'y a pas un brin
c'est
de poussière.
C'est ouaté, l'espace, c'est... Voilà.
C'est nickel.
C'est de la musique classique.
Voilà. Et là, Ridley Scott, visuellement, il va vraiment chercher... C'est un Anglais. Et ça a son importance.
Un Européen, tu veux dire ?
Un Européen. Ouais. Et un Anglais, précisément, parce qu'il ne faut pas oublier que le film est tourné en Angleterre. Et qu'à cette époque-là, en Angleterre, les techniciens sont vraiment les meilleurs au monde. Ils vont tourner là-bas pour cette raison-là. Ridley Scott veut des techniciens anglais. Et tout ça, c'est important, parce que dans la construction des décors, tout ça, ils abattent un travail phénoménal, où ils vont chercher des débris d'avions dans des aéroports, où en une journée, ils fabriquent 6 panneaux de vaisseaux spatiaux. Enfin, voilà, des trucs ahurissants. Quand on regarde les photos de tournage, on voit les plateaux, il n'y a pas de fond vert à l'époque. C'est tout du dur, tout du réel. C'est aussi de la maquette.
C'est gigantesque.
Et c'est gigantesque. Les intérieurs sont incroyables. Donc je crois que c'est surtout à ce niveau-là où c'est ce mélange. Évidemment, il y a le Mario Bava, La planète des vampires, qui va énormément influencer Ridley Scott pour le film. Mais on reste dans... Il y a quand même un côté italien.
Pour le dire gentiment.
Voilà. Il y a toujours un côté un peu potache quand même, qui vient du giallo, qui vient de tout ça, où c'est un peu grotesque parfois. Ouais, ouais. Ça peut avoir cet aspect-là. Chez Ridley Scott, au contraire, on est dans quelque chose de très ciselé,
très sérieux,
de très
aussi,
précis, ouais, de très sérieux, qu'on va retrouver finalement plus tard chez un réalisateur, d'après moi, qui s'appelle David Fincher, qui est pour moi le digne héritier de Ridley Scott, en tout cas visuellement.
Qui réalisera en plus Alien 3.
Voilà.
Et moi, je me souviens, parce que du coup, j'ai dû revoir Alien là, pour préparer l'émission, et je l'ai présenté à ma copine, donc elle l'a découvert. Donc c'est toujours intéressant de voir un espèce de... un peu un monument un peu intimidant comme ça, avec quelqu'un qui l'a jamais vu, parce que du coup, toi, tu t'es fait une image mentale du film, et j'ai redécouvert un peu le film. Et c'est là que tu te rends compte que l'image mentale que je m'étais faite d'Alien était complètement différente de ce qu'est Alien. C'est un film qui a vraiment deux parties. C'est-à-dire que tu as quand même une première heure qui n'est pas du tout pourquoi l'alien est connu, c'est-à-dire ce côté huis clos, course contre la montre, slasher, cette dimension slasher. La première heure d'Alien, c'est de l'ambiance. C'est plus proche de Tarkovsky et Solaris en posant des choses. Il y a des plans très très longs, il y a des scènes qui sont étirées, l'atterrissage qui prend des plombes, mais pour encore une fois poser des... pour poser une ambiance, pour poser un mood et pour poser quelque chose, et pour peut-être que cet élastique qui s'étend pète en deuxième partie et que la déflagration se ressente tout au long de cette deuxième partie. Mais c'est vrai qu'il y a un film qui prend autant de soucis de développer une intrigue et une histoire que développer une ambiance, son ambiance, qu'il pose un peu comme un statement, quoi, en disant regardez, on rentre dans cette ambiance de l'espace toute particulière qui n'est pas Star Wars, qui est autre chose.
Et c'est totalement volontaire, je crois que c'est précisément une quarantaine de minutes où finalement il se passe pas grand chose. Déjà toutes les premières minutes sont dans le silence.
6 minutes sans aucune ligne de dialogue.
Voilà, sans dialogue, juste des bruits d'ordinateur,
la musique de Goldsmith.
On se balade dans le vaisseau.
Ouais.
Il y a quelque chose qui est réellement on nous amène à nous réveiller. Ce qu'évidemment font tous les protagonistes du film à un moment donné avec ces capsules qui s'ouvrent comme une fleur, voilà, comme des pétales qui s'ouvrent. Et c'est un réveil. Il y a quelque chose aussi qui tient de la procréation à ce moment-là. Vraiment, tous les symboles sont incroyables dans le film parce que le vaisseau s'appelle Maman. Ouais. C'est elle qui les réveille. Donc, ses enfants. Il y a quelque chose.
Et qui on présente le Nostromo, qui est un personnage à part entière.
Exactement.
C'est peut-être d'ailleurs le premier personnage qu'on présente dans le film, c'est 6 minutes avec
exactement.
Le Nostromo. Quoi.
Exactement, et ces 40 premières minutes, elles tiennent quasiment de la séance d'hypnose, quelque part. Moi, j'adore ces 40 premières minutes.
Formidable.
Voilà, c'est une plongée merveilleuse. Peut-être que je préfère le début du film, ces 40 premières minutes, que le reste. Parce qu'il y a quelque chose du quotidien. On nous présente déjà les personnages, l'exposition est génial parce qu'on nous présente bien tous les personnages et les caractères surtout qui sont très importants. Le milieu ouvrier carrément.
La thune, les enjeux, voilà, l'espèce de lutte de classe.
Un film qui est très en avance parce qu'à aucun moment, je crois que de toute la saga, n'est posé la question d'un possible gouvernement. Il n'y a pas de politique dans Alien. Ce ne sont que des questions inhérentes au capitalisme.
Ouais,
parce que les gouvernements ont disparu sur Terre, on ne le sait pas. J'ai renvoyé au magazine Rokirama sur Alien, mais Rafik Djoumi a fait tout un article justement sur la question freudienne et de la peur dans Alien, mais surtout la question freudienne dans Alien, et de toute cette première partie qui tient réellement de l'hypnose, des choses qui ont été étudiées dans la publicité, dans la propagande. Ridley Scott ne pouvait pas ignorer le concept. Lui venant de la publicité, sachant comment interpeller les foules en 1 minute 30, ce qui d'ailleurs fascinait Kubrick, il était forcément au courant de ça. Donc toute cette installation de 40 minutes, elle nous sert à nous emmener vers l'autre partie du film, comme tu dis.
Donc là, on est en 2021, spoiler alert, on est 40 ans après ce premier Alien de Ridley Scott en 79, et donc 40 ans de Xenomorph, et donc 40 ans d'une franchise qui aura connu donc Alien en 79 de Ridley Scott, puis sa suite Aliens avec un S de James Cameron en 86, puis Alien 3 de David Fincher, on en a parlé, en 92, puis Alien la résurrection de Jean-Pierre Jeunet en 97, puis Prometheus où Ridley Scott revient en 2012, et ensuite Alien Covenant, Ridley Scott remet le couvert en 2017 pour faire une suite à son reboot, on va dire, qui creuse, on va dire, les origines du premier film. Après 40 ans, quel bilan dresser de cette saga Alien ?
Formidable. C'est-à-dire que moi, je fais partie des avant-gardistes
qui défendent tous les films Alien.
On ne parle pas des
Alien vs Predator. On ne parle pas de ça, on parle juste des films.
Non, on reste sérieux, c'est une émission sérieuse.
Oh, exactement, voilà. On n'est pas là pour rigoler.
Étant une émission sérieuse, on va quasiment mettre de côté Alien 4.
Ah bah alors, je croyais que t'allais défendre Alien 4.
Non, j'aime pas Alien 4 du tout. Je peux pas. L'humour et la patte jeunesse sur Alien, pour moi, ne fonctionnent absolument pas.
Tu ne serais pas du genre à réhabiliter Alien 4 en
non.
disant on l'a mal vu et en fait, il est génial.
Non, absolument pas. Je trouve que le génie... alors après, c'est un vrai film de Jean-Pierre Jeunet, en revanche. Ouais. On peut pas lui enlever. Et je trouve que c'est vraiment le génie de cette franchise, en tout cas sur ces 4 premiers films, c'est d'avoir pris des réalisateurs qui ont vraiment pris Alien et en ont fait leur truc.
4 visions différentes.
Voilà, c'est-à-dire que je crois que le plus flagrant, c'est Aliens.
Oui. Film de guerre.
James Cameron arrive, il dit ok d'accord, Alien c'est ça, je vais certainement pas essayer de refaire ça, je vais faire autre chose, je vais faire un film de guerre dans l'espace, chef d'œuvre supplémentaire. Alien 3, on sait tous les problèmes qu'a eu Fincher sur le film et qui l'ont quasiment fait abandonner le cinéma.
Heureusement qu'il ne l'a pas fait.
Heureusement. Voilà. Et puis après, Prometheus et Covenant, bien longtemps après, je sais que les deux films ont énormément de détracteurs. Qui sont détestés, que Ridley Scott depuis, je pense, est détesté de la Terre entière. Et pourtant, ce sont des films, pour moi, extrêmement cohérents dans ce que raconte la saga. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ridley Scott, le xénomorphe, et d'ailleurs, c'est peut-être aussi le souci des films, c'est que ça ne l'intéresse plus. L'humain même ne l'intéresse plus. Il faut voir les deux films aussi avec le reste de sa filmo à cette époque-là. Il faut revoir ces films-là avec Cartel aussi, qui est un film extrêmement noir, extrêmement pessimiste, nihiliste. Ce sont des films nihilistes pour moi. Ce sont des films qui condamnent l'humain, qui condamnent l'homme, qui lui demandent de céder la place à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que de la procréation au départ dans son premier film, là on parle de création pure. Fassbender dans les films, voilà, il crée réellement ça. Et quand on regarde les films avec le commentaire audio Ridley Scott, on comprend vraiment beaucoup de choses. L'utilisation de la musique, l'entrée au Valhalla à la fin de Covenant, ça veut dire quelque chose. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose de vraiment cohérent qui effectivement peut échapper au grand public, parce que le grand public n'a pas à savoir, à lire plein de livres pour comprendre des films et à les apprécier. Absolument pas. Néanmoins, quand on prend la peine de s'intéresser réellement à ce que sont les films, après on peut discuter de le rythme, la narration, la réalisation, tout ça est discutable.
Bien sûr.
Mais en revanche, je trouve que ce sont des films extrêmement cohérents.
Cohérents avec Ridley Scott et la carrière de Ridley Scott. Absolument. Ça en dit beaucoup sur le cinéaste et son évolution
après,
à 40 ans.
On peut regretter qu'il ait repris des mains à Neil Blomkamp, son Alien qui avait l'air formidable aussi.
Justement, qu'est-ce qu'on peut espérer du coup pour le futur de... Parce que Ridley Scott est quelqu'un de très vieux, quand il est assez vieux. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur de la saga Alien? Toi, qu'est-ce que tu espères? Que justement un petit jeune comme James Cameron à l'époque leur prenne et en fasse quelque chose d'autre ou une autre chose?
Je sais pas du tout si Ridley Scott a de quoi terminer une nouvelle trilogie.
Il voulait faire un troisième film pour cette trilogie.
D'abord, est-ce que la Fox, donc Disney, lui laissera faire? C'est une autre question.
Le Covenant n'a pas très bien marché.
Voilà, Covenant, ça n'a pas été la folie. Dans l'absolu, moi, je suis toujours chaud pour un film de Ridley Scott. Après, je trouve que si on met de côté Ridley Scott, Neil Blomkamp, c'est
le mec... Donc, réalisateur de District 9, Chappie...
C'est le mec qui doit y aller, quoi.
Ouais.
Et c'est d'autant plus un crève-cœur que... Voilà, qu'on verra pas certainement jamais son Alien et que derrière il doit faire Robocop et qu'il le fait pas non plus, alors que ce sont des films qui sont faits pour lui, ça se voit. Ça se voit, ces films.
D'accord, il aurait fallu un réalisateur comme lui qui avec cet univers qui match avec peut-être cette relecture.
Dire, je pense que Fincher n'y retournera pas. Donc non, je sais pas. Et puis peut-être qu'à un moment donné, en fait, faut laisser la franchise telle qu'elle est et puis fabriquer d'autres choses. De nouveaux univers, de nouveaux héros.
Une autre proposition aussi.
On peut s'arrêter là, quoi.
On a le droit aussi. De ressusciter toujours les mêmes personnages. Donc regardons Terminator droit dans les yeux.
Ouais, ou Star Wars.
Ou Star Wars, par exemple, effectivement. C'est une proposition. Bah voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de notre émission sur 1979. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière. On est toujours avec Johan Caramonte. Et on est parti sans plus attendre vers le second thème de notre émission. Cette musique sifflotante, virevoltante, c'est la musique de Pierre Bachelet pour le film Coup de tête de Jean-Jacques Hano, qui est l'un des films qui va être au cœur de notre second thème. Puisqu'en 79, trois films sortent, Coup de tête donc de Jean-Jacques Hano, Série noire d'Alain Corneau, Paco l'infaillible de Didier Hautepin, qui sont trois films avec un même acteur, Patrick Devers. Patrick Devers, c'est 30 ans de carrière, c'est 50 films. dont vous avez forcément entendu parler ou vu ces films, c'est Les Valseuses, c'est Adieu Poulet, c'est La meilleure façon de marcher, Le Juge Fayard, Préparez vos mouchoirs, Un mauvais fils ou encore Hôtel des Amériques. Patrick Devers, c'est aussi, et non des moindres, 6 nominations au César entre 76 et 82. Donc c'est un joli record, on va dire.
Pour zéro César,
et finalement 6 nominations pour zéro César. C'est pour Yves Boisset et Marcel Carné, tout simplement le meilleur acteur de sa génération. C'est un homme aussi né Patrick Bourdeau et qui prend le pseudonyme de Devers, qui signifie « le vrai » en flamand. Bref, une fois qu'on a dit tout ça, on n'a pas dit grand-chose. Mais Patrick Devers, toi Johan, il incarnait quoi Patrick Devers ?
J'ai eu un rapport pendant très longtemps compliqué à Patrick Devers parce qu'il faisait partie, comme Michel Piccoli, de ces acteurs qui à l'écran provoquaient un malaise.
Ouais.
Me dérangeait physiquement, mais surtout dans leur façon d'être à l'écran. Et je crois que ça tient beaucoup au rôle, finalement, rétrospectivement. Moi, je comprends ça aujourd'hui, mais quand j'étais gamin, je le voyais pas comme ça. Un peu de la trempe de ces acteurs comme Willem Dafoe, qui ont quelque chose de très ambigu entre eux, où on sent qu'il y a quelque chose qui est différent chez les autres, quelque chose qui tourne pas exactement en rond. Donc Devers, pour moi, pendant très longtemps, j'ai pas voulu voir de film avec lui parce que ça provoquait réellement un malaise.
Ah, il dérangeait, quoi.
Oui, il me dérangeait, ouais, vraiment.
Mais tu dis quelque chose d'intéressant, tu dis il avait quelque chose qui tournait pas rond, il avait quelque chose de différent, et du coup ça te dérangeait, parce que c'était quelque chose que tu voyais pas ailleurs.
Bah, parce que c'est pour ça qu'il les notait de tous les autres, en particulier Devers, parce que dès qu'il était là, dans son comportement, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était en permanence sur la brèche, t'avais l'impression que c'était quelqu'un qui pouvait exploser à tout moment, ce qui l'aura malheureusement fait, ouais. Finalement. Et vraiment, quand on le voit, on a l'impression que c'est quelqu'un d'extrêmement fragile, mais lancé à la vitesse de la lumière, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec une énergie...
Une locomotive en verre.
Ouais, c'est incroyable. Et que le premier truc qu'il va rencontrer, il va se littéralement exploser dessus, se briser. Mais tant que ça avance, c'est quasiment inarrêtable, quoi. Et c'était quelqu'un, oui, qui avait une énergie incroyable. Mais
Tu te souviens du film qui t'a fait changer d'avis sur Devers ?
Série Noire.
Que tu as vu du coup plus tard.
J'ai vu beaucoup plus tard. Ouais. J'ai vu beaucoup plus tard. Série Noire. Série Noire que j'ai vu en premier, que j'ai vu avant Les Valseuses, que j'ai vu avant Coup de tête. Mais Série Noire, quand on le regarde et quand on écoute un peu les gens qui l'ont connu, c'est le rôle de sa vie parce que c'était lui à l'écran.
Série Noire, ça raconte quoi pour ceux qui l'ont pas vu?
Série Noire, c'est l'histoire d'un espèce de loser finalement.
Ce mot va revenir souvent dans ce second.
Malheureusement.
Oui,
qui se déroule dans une sorte de banlieue parisienne, ouais. un peu ouvrière. D'ailleurs, un décor et des gens qui ont totalement disparu du cinéma français, milieu ouvrier finalement. Mais la banlieue un peu pavillonnaire, pas non plus les quartiers, les nouveaux quartiers, quoi. Bah, c'est l'histoire d'un mec comme ça qui est représentant et qui va faire un petit larcin, qui va rencontrer sur sa route une fille, Marie Trintignant. Il va être obsédé par elle. Voilà, c'est une sorte de petite chronique.
Un peu un fait divers tourné en.
Ouais, c'est un fait divers. Au milieu, on va croiser Blier, Bernard Blier.
Formidable.
Qui va se prendre des gifles d'ailleurs. Je pense qu'ils sont peu à lui avoir mis des gifles à l'écran. Puis c'est un film qui, dans ce film, Corneau révolutionne sa mise en scène aussi, parce qu'il décide d'être beaucoup caméra à l'épaule, parce qu'il veut suivre Devers. Il est au contact de Devers tout le long du film. Justement, je l'ai lu il y a pas longtemps, c'est Georges Perec qui écrit les dialogues. Et il n'y a pas d'improvisation dans les dialogues, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'écran est écrit. Les acteurs et les actrices déclament vraiment ce que Perec a écrit. En revanche, les mouvements dans le cadre, notamment de Devers, ça, par contre, Devers pouvait faire ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il était... pour ça que Corneau était caméra à l'épaule, parce que si Devers voulait changer de pièce, on devait pouvoir changer de pièce avec
lui. Pour
pouvoir
le suivre...
Malgré la lumière,
malgré... Il a adapté sa réalisation à l'acteur qu'il avait en face de lui.
Totalement. C'est un film qu'il a écrit pour lui, de toute façon.
T'as un côté électron libre, hein, Patrick Devers. T'as un côté, fait comme tu l'as dit, foudre en bouteille. J'ai fait en face de moi quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et d'ailleurs, il y a cette scène fameuse en Série Noire où il est dans ce terrain vague avec cette bagnole.
Il se met des coups
de tête. Et il s'éclate la tronche contre le pare-choc de sa voiture. Et volontairement, il se jette le crâne dessus à plusieurs reprises. Et c'est vrai que quand tu regardes le film, tu te dis, là, il ne fait pas exprès.
Non,
clairement, il se balance la tronche contre la voiture et ça doit vraiment lui faire mal. Et comme tu dis, c'est saisissant. Quoi.
D'ailleurs, sur cette scène-là, il fait le tour de la voiture et il court sur la voiture, il met un grand coup de tête dans la voiture, il s'ouvre le front.
Ouais.
Et à ce moment-là, bon, bah, il le raconte, il y a un cut et on lui dit « Mais tu veux qu'on te mette quelque chose ?» Et là, t'es malade ou quoi ? Tu mets rien du tout, je saigne, c'est comme ça.
C'est vrai que Devers, ça c'est intéressant parce que donc t'as ce côté électronique, mais il se défend, en tout cas, il est inspiré par l'acteur studio américain. C'est-à-dire qu'il a ce côté, donc acteur studio, c'est cette école, on va dire, américaine qui a formé des gens comme Marlon Brando, Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Robert De Niro, Al Pacino, etc., qui revendique, on va dire, qui prône une suridentification des acteurs pour le personnage qu'ils jouent. C'est-à-dire que Robert De Niro pour Taxi Driver, pour jouer un chauffeur de taxi, il peut devenir chauffeur de taxi pendant plusieurs semaines pour rentrer dans la peau du personnage. Pour jouer quelqu'un de dépressif ou de qui va pas bien, il faut se mettre dans l'état dépressif de le personnage qu'on va jouer. Donc à ce côté, il faut que je me mette à la place du personnage que je vais jouer. Et Devers, il est complètement là-dedans. Ce qui, du coup, dans le paysage des acteurs français, est une petite anomalie, quand même, mine de rien.
Bah, tu dis qu'il est complètement là-dedans, et je sais pas, parce que quand on écoute, encore une fois, les gens qui l'ont côtoyé, apparemment, ce qu'il est dans Série Noire, il l'était vraiment à la ville aussi, c'est-à-dire que il n'y avait pas, à partir du moment où il y avait action, il ne se métamorphosait pas en quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un qui était quand même toujours un peu là-dedans. Après, il y a du jeu et il faut bien jouer un personnage à un moment donné. Il n'était pas non plus Poupard.
Ouais, c'est ça. Ouais, Franck Poupard. Franck le Poupard, loser magnifique.
Il n'était pas complètement ça. Après, est-ce qu'il vraiment il empruntait à l'acteur studio? Honnêtement, je sais pas.
C'est vrai que la même année, donc on a Série Noire dont on vient de parler et il y a Coup de tête qui est du coup encore autre chose. C'est une sorte de comédie grinçante et sociale aussi sur le. Qui se passe dans le milieu du football, qui montre aussi une autre facette intéressante de Patrick Devers. C'est vrai que moi, j'ai découvert Coup de tête pour l'émission. Formidable film. Oh, mais quel bonheur de film avec une série de second rôles, tous plus magnifiques les uns que les autres. Et puis Patrick Devers qui flotte comme ça entre ses figures pour tracer son chemin d'audelinant. Comme ça, c'est assez fou. Mais c'est vrai que Patrick Devers, là, on l'a vu avec Série Noire, est connu pour cette incarnation de ces incarnations de personnages quand même assez sombres, de losers un peu magnifiques, on en a parlé, de gens un peu chaotiques, dépressifs. Et tu l'as dit, il était aussi comme ça à la ville. C'est quelqu'un qui s'est suicidé le 16 juillet 1982 en se mettant une balle de fusil, je crois.
Un fusil offert par Coluche
dans la tête. Un suicide qu'il a fait chez lui dans le 14e arrondissement alors qu'il se préparait le matin même avec Claude Lelouch à préparer le film Édité Marcel qu'il allait tourner dans quelques semaines. Apparemment, il aurait reçu une nouvelle par téléphone qu'il l'aurait complètement défoncé. Au sujet de ses enfants, c'est quelqu'un qui a eu une vie assez compliquée et du coup il se serait suicidé. Moi je pose une question, est-ce que les rôles qu'il a joués dans sa carrière, sombres, négatifs, etc., est-ce que les rôles qu'il a joués ont-ils tué Patrick Devers ?
C'est compliqué à dire, quelqu'un qui met fin à ses jours, on est au bout de quelque chose. Ouais. On peut difficilement concevoir ça de notre place. C'est quand plus rien ne te retient, en plus il avait des enfants, tout ça. Donc, mais c'est quelqu'un qui avait tellement de problèmes à l'intérieur, des problèmes dans son enfance, d'agressions sexuelles, de choses comme ça qui l'ont plus qu'abîmé. Savoir d'abord pourquoi, je sais pas du tout pourquoi il a fait ça.
Ça reste encore très nébuleux.
Après, est-ce que le cinéma, est-ce que ce sont ses rôles, est-ce que c'était cathartique pour lui?
Ouais.
Est-ce qu'il y trouvait au contraire un échappatoire et l'occasion de rendre à l'image ce qu'il avait à l'intérieur. En revanche, il a été extrêmement blessé, en colère, de ne pas avoir la reconnaissance des Césars pour Série Noire.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est un film qui était nommé, je crois, dans toutes les catégories et qui n'a rien eu. Et ce soir-là, d'autres le racontent, qui faisait partie de l'équipe, il était effondré. Donc, est-ce que ce manque de reconnaissance, même s'il avait évidemment la reconnaissance de la critique, du public, tout ça, mais le reconnaissance de ses pairs, finalement, qu'il n'avait pas forcément, encore que quand tu es adoubé par Claude Sautet, par Alain Corneau, par Blier, par des gens comme ça, tu te dis « bon, ça va, j'ai quand même réussi un truc, quoi ».
Mais il lui manquait
peut-être ce truc. Après, je veux pas faire de,
bien sûr,
pas faire d'analyse. Bon, on peut se poser la question.
Qui est un peu incombe du coup, parce que maintenant il y a le prix Patrick Devers qui récompense, je crois, le plus bel espoir de l'année. Ouais. Voilà, donc ce qui est un peu un comble qu'il a appris maintenant à son nom.
Voilà.
Mais c'est un peu triste. Et j'avais cette citation qui est intéressante, qui va peut-être mettre un peu de grain à moudre à notre réflexion. Il a fait une confession à son ami et journaliste Marc Esposito en 82, donc la même année où il s'est suicidé. Il lui a dit: quand tu passes ta journée à faire des gestes de quelqu'un qui est triste, eh bien quand tu rentres chez toi, t'es pas drôle, mon vieux. T'as pris le pli. Quand tu fais 5 films de suite où tu joues un paumé, tu finis par être un paumé, alors j'en ai marre. Lui-même, on dirait qu'il, tu vois, il l'a dit comme ça, oui. Il traduit: j'en ai marre de jouer des paumés.
Quand tu regardes Un mauvais fils,
oui,
Claude Sautet, le film est terrible. C'est terrible, effectivement, de ce qui renvoie. Je ne sais pas s'il revoyait ses films après, mais même à jouer, avoir cette relation-là. Même si c'est que de la fiction ou quoi, être aussi dur avec son père, avoir cette... je trouve que c'est un film vraiment, vraiment, vraiment dur. Et à la fois, on voit que lui pour jouer. À cette époque-là, c'était lui ou Gérard Depardieu, de toute façon. Ouais. On déplaise à Gérard, Patrick Devers est un meilleur acteur.
Les mots sont lâchés.
mais voilà, ouais, après, est-ce que c'est le cinéma? Peut-être.
On reste sur ce point d'interrogation.
À mon avis, c'est pas tout blanc, tout noir.
C'est peut-être plus compliqué que ça aussi.
C'est un mélange extrêmement complexe, sûr, ouais. À mon avis, effectivement, ouais. de vie et d'écran. Alors, juste pour terminer sur le point précédent, je sais plus si c'est 6 semaines avant ou 6 semaines après, ouais. Mais c'est Romy Schneider qui se suicide.
Oui, oui,
et
effectivement.
Les trajectoires,
ouais, y a ces trajectoires-là, ouais.
sont vraiment parallèles. Ouais. Dans ce qui se passe à l'écran et ce qui se passe en dehors, il y a vraiment quelque chose à raconter là-dessus. En tout cas, il y aura bientôt un très bel article d'Esther Bréjon sur le sujet dans Rockyrama.
Voilà, c'est là où je l'ai vu, effectivement. C'est bien là où je l'ai vu passer. Esther m'avait dit, Esther, qu'on salue, qui était une ancienne invitée de Daniel Lumière et une amie, et qui m'a effectivement parlé ouais, d'un article comme ça. Voilà, c'est là où je l'ai entendu.
C'est vraiment, quand elle l'écrit, l'article met tout en lumière, et effectivement, ça devient limpide. On voit la trajectoire de ces deux acteurs, c'est vraiment incroyable.
Et pour finir peut-être sur ce thème, quel est l'héritage de Patrick Devers aujourd'hui? Tu verrais des acteurs qui pourraient se prétendre des héritiers de Patrick Devers, ou alors c'était une fulgurance qui n'arrive qu'une fois dans... Moi j'ai réfléchi, dans les années 90, je t'aurais dit Guillaume Depardieu, qui a ce côté complètement brisé à l'écran, mais aujourd'hui, qui nous a quittés, machin. Y a pour le côté bordélique, mais alors pas pour autre chose, hein. Vraiment juste pour le côté bordélique, parce qu'après il est dans une autre catégorie. Je pensais à Pio Marmaille, le côté il peut te faire n'importe quoi, et j'ai vu Felicita, t'as ce côté un peu aussi cassé, mais encore une fois c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué.
C'est compliqué parce que est-ce que le cinéma français laisserait la place à un acteur comme ça aujourd'hui? Est-ce qu'il lui offrirait les rôles, les histoires, ouais. les films pour s'exprimer? J'en suis pas persuadé. Néanmoins, c'est vrai que Pio Marmaille, c'est quelqu'un qu'on imagine très bien à cette époque aussi. Quelqu'un qu'on voit pas assez, effectivement.
Voilà, et qu'on salue s'il nous écoute. Voilà qui conclut donc ce second thème sur 1979 et sur Patrick Devers. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, on est toujours avec Johan Chiaramonte, et on s'en va sans plus tarder, doucement, tranquillement, vers le troisième et dernier thème de notre émission. Rhapsody in Blue de George Gershwin, cette musique qui est l'ouverture d'un film fameux, aussi issu de cette année 1979. Ce film fameux, c'est Manhattan, de et avec Woody Allen, mais aussi avec Diane Keaton, Meryl Streep, Marielle Hemingway, Michael Murphy. Un film qui raconte l'histoire d'Isaac Davis, qui est un auteur de sketch comique new-yorkais d'une quarantaine d'années, que son épouse vient de quitter. et celle-ci vit maintenant avec une autre femme et écrit un livre sur son ancienne vie conjugale. Et donc Isaac va se retrouver comme ça au milieu d'un maelstrom médiatique. Et lui, du coup, de son côté, entretient avec une relation avec une collégienne de 17 ans, Tracy, une liaison qui lui rappelle du coup le caractère éphémère des relations humaines. Alors Manhattan de Woody Allen, en 79, c'est un box-office de 39,9 millions, donc 40 millions de dollars au box-office, 20 millions de tickets vendus. En 2021, ça donnerait, pour vous donner une idée, ces 40 millions de dollars donneraient 146 millions de dollars ajustés. Donc c'est un succès énorme à l'époque. Et c'est d'ailleurs toujours le deuxième plus gros succès aux États-Unis pour Woody Allen, juste après Annie Hall. Manhattan, c'est un film qui est nommé deux fois aux Oscars pour le scénario et donc pour l'actrice Marielle Hemingway. Et qui a notamment dans sa manche, parmi moult choses, la photo folle de Gordon Willis, qui est donc le chef opérateur notamment du Parrain, de la trilogie du Parrain. Comment est-ce que tu qualifierais Manhattan pour ceux qui ne l'auraient pas vu ?
Bah d'abord, c'est un film qui porte bien son nom, puisqu'on a souvent, à juste titre, pour plein de films, on dit « Ouais, la ville, c'est un personnage à part entière. » Bon, bah là...
Là, c'est Manhattan.
C'est clair et net. C'est une lettre d'amour à cette ville, évidemment, de la part de Woody Allen. Et c'est une carte postale. Le film, c'est une carte postale. Mmh. Visuellement, c'est le Manhattan de Woody Allen. C'est-à-dire que c'est un Manhattan qui n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de noirs non plus. Pas de violence. C'est une version idéalisée de la ville dans un noir et blanc sublime où il pleut. Il faut savoir que Woody Allen préfère très largement les jours de pluie aux jours ensoleillés. Et ensuite... c'est à la fois une comédie, c'est une comédie romantique. Je pense que c'est aussi un bon divan pour Woody Allen à un moment donné où il a eu besoin de passer un peu en psychanalyse.
De cracher des choses.
Voilà. Savoir que c'est un film qu'il prétend depuis le début ne pas aimer.
Oui.
Il dit qu'il déteste ce film. Pour moi, c'est un mystère.
Pourquoi c'est un mystère pour toi ?
Alors lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est un film qui est formellement parfait au niveau de l'écriture. C'est de l'orfèvre. Pas oublier qu'il n'a pas écrit ce film seul, qu'il l'a écrit avec quelqu'un qui s'appelle Marshall Brickman, qui avait déjà écrit Annie Hall avec lui, qui a été oscarisé.
Que vous avez eu du coup en interview dans Rocky-Rama, notamment pour un Rocky-Rama Papers.
Exactement. Fameux. Je voulais vraiment l'avoir en interview, parce que en plus c'est quelqu'un qui a fait tellement de choses à côté, qui a bossé sur les Muppet Show, qui a écrit chez Johnny Carson, un scénariste hors pair, quoi. Et donc... Souvent, et à juste titre, parce que lui-même le dit, hein, Marshall Brickman le dit, qu'il est au service de Woody Allen hein, quand il écrit.
Ouais, ils sont deux à écrire, mais il est voilà. Clairement au service de
Woody Allen. Il est à son service.
Qui, à l'époque, Woody Allen, en 79, est une star, en tant que quelqu'un qui a... Il y a eu Annie Hall
total.
Juste avant, donc c'est quelqu'un qui connaît un succès
c'est
phénoménal.
C'est Annie Hall qui le propulse. Et justement, il dit après ça, je fais quoi ?
Donc bon, Manhattan doit être la confirmation du succès.
Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, ça prend un peu Annie Hall à contre-pied parce que d'abord, c'est un film en noir et blanc. C'est un film qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus calme finalement, et qui ne se permet pas tout ce que se permet Annie Hall, c'est-à-dire je ne compte plus le nombre de fois le quatrième mur est traversé dans Annie Hall où les protagonistes s'adressent aux spectateurs. Voilà, oui. Il y a des choses un peu. Comme ça, surréaliste qui adviennent dans le film. A contrario, dans Manhattan, dans quelque chose de beaucoup plus classique, dans sa réalisation, quelque chose de beaucoup plus posé. Mais à la fois, on a parmi, je pense, les plus beaux plans des années, au moins des années 70, grâce à Gordon Willis. Et notamment, pour moi, cette scène dans le musée. Où ils se promènent tous les deux avec Diane Keaton, où ils discutent et ce ne sont que leurs ombres qui.
Ah, formidable!
Justement, c'est un plateau reconstitué évidemment, le musée n'existe pas, mais ils marchent à un moment donné sur la Lune. On les voit comme ça, il n'y a que leurs ombres qui traversent et ils discutent comme ça, il y a quelque chose de. À la fois surréaliste, complètement poétique, les dialogues sont à la fois drôles et totalement déprimants, tout Woody Allen. Finalement.
En lançant l'émission, puis nous on a construit l'émission tous les deux, hein. Tu m'as dit effectivement j'adorerais parler de Manhattan en troisième thème, parce que le troisième thème c'est toujours un petit peu une étude de cas et c'est pour ça qu'on aime ce troisième thème. Et t'as lancé l'émission en disant on va parler de films qui pour moi sont importants. En quoi Manhattan est important pour toi, dans ta construction personnelle ou...
Parce que pour moi, il renvoie à un genre de cinéma qui est essentiellement construit sur le dialogue. Quelque chose qui n'est absolument pas perdu. Il y a de très grands dialoguistes aujourd'hui, hein, Sorkin, évidemment, Tarantino, des gens comme ça. Mais il y a un amour des mots, je trouve, dans le film, qui est assez incroyable. D'ailleurs, c'est un film littéraire. Hein, c'est pas pour rien qu'ils vont chez Rizzoli, à un moment donné, célèbre librairie new-yorkaise. Il y a quelque chose de vraiment littéraire. Moi, j'ai lu le scénario aussi. Autant formellement, encore une fois, c'est quelque chose de magnifique, tout ça. Mais au niveau des mots, il y a une justesse, il y a une rythmique vraiment incroyable, je trouve. C'est un film, pendant longtemps, que j'ai mis pour m'endormir, mais en l'écoutant. Je ne le
regardais
pas.
Comme un podcast.
Pas. Exactement.
Manhattan, le meilleur des podcasts.
Je fais ça avec beaucoup de films. Et d'ailleurs, la version française est excellente du film. Aussi parce qu'on était à une époque où on travaillait énormément sur la VF. On avait le temps d'écrire. Ouais. Justement, entre la sortie américaine et la sortie française, il y avait énormément de temps. Après, c'est un film... moi, j'ai 40 ans passés. Je pense que c'est un vrai film de quarantenaire qui pose des questions sur sa vie personnelle, sur le couple, sur l'adultère, sur,
là, le côté
sur le temps qui passe.
L'autre facette de la rom-com, finalement.
Ouais.
La rom-com de névrosé. Qu'est-ce qui se passe après les jolies choses qu'on a quand on a 20 ans et l'amour et les hirondelles et les colombes? Ben on se pose toutes ces questions-là après.
Mais effectivement, il y a quelque chose. Les questions que se pose Isaac, donc Woody Allen, dedans. Pourquoi est-ce qu'il a une relation avec une fille de 16 ans?
Bah, rétroactivement, effectivement, avec ce qu'on sait maintenant, effectivement, c'est compliqué parce que ça.
C'est compliqué, mais dans son personnage, il y a quelque chose d'extrêmement triste et dramatique. Et lui, il se rend compte à ce moment-là que une grande partie de sa vie, elle est derrière lui.
Dramatique.
Mais Manhattan est un film triste. Hein.
De quoi témoigne le succès d'un film comme Manhattan? C'est quand même atypique d'avoir un film où des gens parlent en noir et blanc, assis sur des bancs pendant des minutes et des minutes et des minutes, et que ça fasse 40 millions de dollars.
Peut-être la fin d'une époque, justement, la fin des années 70. Et puis, encore une fois, c'est un film très new-yorkais. Hein, quand on a un peu voyagé aux États-Unis, je ne suis pas sûr. Enfin, on ne peut pas dire que c'est un film américain, en fait.
Ah, c'est intéressant.
Le Midwest ne pense pas de la même façon qu'à New York, on le sait très bien, ou au Texas non plus. Donc, c'est un film très new-yorkais. Ce serait intéressant de regarder où il a cartonné. Et à mon avis, c'est les côtes américaines. Après, de quoi il témoigne, je pense...
Qu'est-ce qu'il raconte des années 60-70 américaines, tu dirais?
Comme tu le disais au début, il y a un film qui cartonne cette année-là, c'est Kramer contre Kramer.
Qui est donc un film sur deux gens qui divorcent, enfin un couple qui divorce, voilà. Et la bataille notamment pour avoir l'enfant au milieu.
Et encore une fois, une question de couple, question de la famille américaine, parce que quand même... Manhattan en parle aussi. Il y a peut-être le besoin de faire un peu un état des lieux après... encore une fois, le Vietnam, tout ça, de ce qu'est la famille, ce qu'est la relation dans un couple, tout ça.
Où est passé le fantasme de la famille atomique?
C'est finalement peut-être plus que le divan de William, c'est peut-être le divan d'une certaine partie de l'Amérique, Manhattan.
C'est magnifique.
On en fera un t-shirt.
On fera des pins et des t-shirts. Effectivement, peut-être que Manhattan, c'est un peu le divan d'une certaine partie de l'Amérique. C'est formidable. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Manhattan?
Qu'il faut absolument le voir. Oui, je voulais revenir sur un truc très rapidement. C'est quelque chose qui était important pour moi. Au moment où on a fait le Rockerama Papers, justement, où il y a l'interview de Marshall Brickman et où on fait... qui a été un pur caprice de la part de trois personnes chez Rockerama, qui adorent le film. Autant dire que ça n'a pas été un carton. À chaque fois, j'écris une sorte de mini-édito, si on peut appeler ça comme ça. Et autant je n'aime rien de tout ce que j'écris, autant celui-ci, j'en suis fier. Parce que, rétrospectivement, quand on regarde ces films aujourd'hui, on les regarde à la lueur de l'époque. Et c'est important de remettre en question certaines problématiques, évidemment. Et parfois de condamner, même. Même si... Je me garderai bien d'être juge et tribunal à la fois. Mais ce qui me dérange là-dedans, la cancel culture, hein, finalement, et Manhattan, Woody Allen n'y fait pas exception, et Manhattan, du coup, tombe un peu sous le coup de la loi
domino,
2021. Ce qui me dérange, c'est que du coup, on jette le voile sur toute une plein de talents Et en l'occurrence, pourquoi je suis allé chercher Marshall Brickman ? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas connu et qui pourtant a écrit deux des plus grandes comédies de l'histoire du cinéma, pas seulement américaine, Annihal et Manhattan. Personne ne pourra dire le contraire. Alors du coup, si on se met à plus parler de ces films, comment on parlera de ces gens-là ? Et moi, ça me dérange. Donc, ne pas occulter toute une partie problématique d'une personnalité, peut-être de son œuvre, tout ça, ça ne me pose pas de problème. C'est évident, c'est nécessaire. En revanche, oublier tous les gens à côté qui ont pu travailler. Du coup, on ne parle plus de Gordon Willis non plus, ou alors seulement pour Le Parrain. Mais,
c'est dommage. Quoi.
Voilà, moi je trouve que, encore une fois, on prend les sujets un par un, on les décortique. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire.
On peut mettre de la nuance dans le.
C'est important. La nuance, je pense que c'est important. Et c'est cruellement ce qui manque aujourd'hui, je crois.
C'est joliment conclu. C'est joliment conclu cette troisième partie sur Manhattan de Woody Allen, qui est aussi l'un des grands films de ces années 79. On arrive doucement à la fin de l'émission, mais comme d'habitude, vous le savez, avant de se quitter, on va faire un petit tour du monde avec nos petites recommandations pour cette année-là. Et on y va sans plus tarder. Alors, c'est donc le temps de notre petite recommandation. Toi, Yohan, tu avais un film que tu voulais recommander en particulier pour ces années 79. Quel est-il ?
C'était Le Cavalier électrique de Sidney Pollack, qui est un film... Alors d'abord, Sidney Pollack, c'est un réalisateur que j'adore. Très grand réalisateur pour moi des années 70, peut-être effectivement beaucoup plus académique que Ridley Scott ou Woody Allen.
Donc mais, il a fait Les Trois Jours du Condor, il a fait House of Africa, il a fait Tutsi.
Voilà, il a un enchaînement comme ça dans les années 70 et 80, puisque du coup Tutsi c'est les années 80, qui est assez incroyable. Et le Cavalier électrique, c'est Robert Redford qui, comme ça, est à Las Vegas et fait des shows avec des chevaux, qui donc est habillé en cow-boy, mais qui n'est plus de son époque. C'est un personnage qui n'est plus de son époque, qui décide de se casser à cheval avec le cheval du spectacle. Et il croisera bien évidemment Jane Fonda, c'est un couple à l'écran récurrent. Et tout ce film parle justement de... D'abord, ça parle, je trouve, très bien de l'Amérique. À la fois de Las Vegas, qui à mon avis est le pire endroit du monde, avec Dubaï, et Robert Redford comme ça qui part dans les plaines comme ça, qui retrouve un peu un peu une Amérique de carte postale, hein, c'est vrai, mais un retour à la nature, quelque chose de voilà. Et j'aime ce film pour ça, pour ce qu'il raconte, pour la figure de Redford aussi.
Et quel est le cœur du film, quelle est l'histoire du film?
Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui ne se sent plus à sa place, qui à un moment donné présente tous ses trucs, gagne de l'argent, une ancienne gloire comme ça. En France, on pourrait avoir ça. Bah, dans Tandem, par exemple, de Lecomte, Rochefort fait ça très bien à la fin, où il présente des trucs dans un supermarché, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et là, du coup, il en a marre, quoi. Et il se retrouve plus là-dedans, il est plus de son époque, et il se dit, je vais aller vivre mon aventure. Voilà, et puis ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera. Je pense que le film parle de ça, de quelqu'un qui ne se sent pas à sa place dans son époque.
Écoutez, Le Cavalier électrique de Sidney Pollack avec Robert Redford et Jane Fonda, puisqu'il est en plus il me semble qu'il avait été présenté au Festival Lumière il y a peut-être 2 ans.
Ouais.
Il m'a semblé le voir passer Thierry Frémaux
avec Jane Fonda quand elle est passée.
Effectivement, ils avaient fait également une projection. Donc voilà, c'est la recommandation de Yohan pour cette année 79. Alors de mon côté, je vais recommander un film un petit peu différent de tout ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on va sortir des États-Unis, on va sortir de l'Europe et de la France, on va aller en Asie, on y va trop peu souvent, et je vais vous parler du Château de Cagliostro. Et pourquoi je vous en parle ? Puisque c'est un film qui est donc sorti au Japon le 15 décembre 1979, et qui est le tout premier long métrage d'Hayao Miyazaki, réalisateur ô combien célèbre de Princesse Mononoke, du Voyage de Chihiro, de Porco Rosso, etc. etc. Et c'est à l'époque quand il sort le second film sur le personnage d'Arsène Lupin III de la série animée culte Lupin 3, créé en 67. Et du coup, Hayao Miyazaki, quand il fait son premier long métrage, il récupère donc un personnage et un univers qui ne lui appartiennent pas vraiment. Mais il va faire un petit hold-up avec ce film-là, puisque il va déjà, avec ce film-là, ce personnage-là, imposer un ton et imposer un univers. Et il va dénaturer en passant le personnage de Lupin, qui est un personnage un peu grossier, un peu grotesque, un peu très lourd aussi, avec une sexualité très embarrassante, on va dire, un peu à la Nicky Larson, si je peux faire des parallèles un peu hasardeux. Mais en tout cas, voilà, il va utiliser ce premier long métrage et ce personnage-là pour déjà placer comme ça son admiration pour l'Europe, pour placer son admiration pour l'animation européenne. Et il va passer des références comme ça à la Bergère et le Ramoneur, au Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, et pour aboutir finalement à un espèce de grand film d'aventure avec une histoire romanesque, des fusillades, des combats, des trésors, des secrets, mais aussi déjà ce qu'on aime chez Miyazaki, c'est-à-dire ce souci de la poésie inattendue, de la rupture lyrique impromptue qui arrive comme ça, et de la pause avec des séquences et des plans qui vous touchent, qui s'arrêtent et qui vous touchent au cœur. Voilà, donc c'est Le Château de Cagliostro, c'est le premier film de Miyazaki, c'est déjà un grand film d'Hayao Miyazaki. En général, il est moins connu puisqu'il est hors Ghibli. Il arrive en 79, Ghibli arrive un peu plus tard. Donc si vous voulez effectivement voir Miyazaki au tout début de sa carrière, n'hésitez pas à vous jeter dessus. C'est ma recommandation pour 79, Le Château de Cagliostro. Bref, voilà qui conclut parfaitement notre épisode, notre émission sur l'année 1979 avec Johan Caramonte en invité. Merci beaucoup Johan.
Merci infiniment. Merci Très beaucoup. Heureux d'avoir participé à cette émission. Ça faisait longtemps que je voulais venir. Je trépignais. Super concept et tout. Génial. Merci beaucoup.
Ben c'est un bonheur réciproque. Je suis très contente de t'avoir eu dans l'émission. Et merci à toi d'avoir partagé ton cinéma avec nous. Avant de nous quitter, chers auditeurs, je vais remercier les partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et évidemment Tsugi Radio qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Et enfin, j'aimerais vous remercier, vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Twitter de l'émission et n'hésitez pas à nous supporter sur le Tipeee de l'émission. Donc, c'est tipeee.com/année-lumière. Votre soutien et votre support me touchent directement au cœur. Voilà, il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine émission d'année-lumière très très bientôt. Salut, salut !